Saluton!
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 Saluton! Saluton.
Saluton al chiuj, bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui un couple franco-finlandais, Gisèle et Hannes Larsson, qui a reçu en France et initié à l'espéranto une jeune femme mongole qu'ils ont rencontrée lors d'une excursion dans son pays. Ils commencent par nous raconter comment ils ont découvert l'espéranto il y a seulement 5 ans et demi en visitant un stand lors d'une manifestation à Aix-en-Provence.
Ceux qui étaient au stand m'ont montré un livre sur les langues européennes. J'ai acheté ce livre et c'était une révélation. Une page ou deux étaient consacrées à chacune des 50 langues européennes, mais l'espéranto avait au moins 4 ou 5 pages. Et l'auteur disait que c'est la langue qu'on doit impérativement adopter en Europe. C'était d'ailleurs un professionnel. Il parlait lui-même 50 langues, l'auteur, et il avait été chef des services de traduction et d'interprétation de la Commission européenne. Donc, puisqu'un professionnel disait ça, je me suis dit, ça c'est vrai, je dois apprendre l'espéranto.
Moi, en fait, j'avais entendu parler de l'espéranto parce qu'avant la guerre, ma sœur avait commencé à l'apprendre. Du temps du Front populaire, quand il y a eu toute cette période de fraternité, d'ouverture au monde, donc ma sœur avait commencé. Et puis patatrac, la guerre est arrivée, tout ça, on a complètement perdu de vue, bien sûr, tout ce qu'on avait connu avant. Et puis, je ne pensais plus du tout à l'espéranto. Et puis, tout d'un coup, quand on a vu ce stand à Aix-en-Provence, j'ai dit, mais ça existe encore. Donc, allez, on y va.
Oui, j'ai acheté la méthode Assimil. J'ai étudié moi-même. Ma femme a commencé un peu plus tard.
Mais la méthode Assimil ne me convenait pas tellement parce que j'ai besoin de comprendre le pourquoi.
D'accord.
Et alors, finalement, j'ai découvert tout à fait par hasard un petit entrefilet sur le Dauphiné Libéré, notre journal local à Valence, qu'il y avait un club d'espéranto à Valence. Alors évidemment, j'ai sauté sur le numéro de téléphone, j'ai téléphoné et l'affaire a démarré comme ça. Ça a été vraiment une illumination, on peut dire, grâce à Monsieur Moutet, mon premier professeur, parce que lui, avec une seule feuille, avec un croquis, il m'a montré la racine au milieu et puis tous les affixes et j'ai tout de suite compris l'organisation de la langue, chose qui n'apparaissait pas dans la méthode Assimil.
C'est vrai.
Voilà. Donc, et après, ça y est.
Donc vous êtes sensible, en fait, à la logique de l'espéranto.
Plutôt.
J'ai tout de suite constaté que c'était vrai, qu'on l'apprend très, très vite. Après environ 2 ans, j'ai déjà donné ma première conférence en espéranto à mon club de roman.
Oui. Mais enfin, il y avait des E, justement.
Oui,
il y avait quelques E, il y avait des hésitations.
C'est, vous parlez de ces E que l'on coupe au montage.
Voilà, exact. Oui, les E d'hésitation, ce que j'appelle.
Je connais ça.
Oui. Et puis, bien entendu, après, on va quand même au cours. Mais finalement, maintenant, je préfère travailler toute seule. C'est-à-dire que je lis beaucoup, toujours avec les dictionnaires évidemment, et puis j'aime bien les mots croisés de Stano Marček, et puis voilà, on parle entre nous bien sûr, et avec des amis. Quand j'avais 24 ans, j'ai eu l'occasion de travailler à l'école française de Helsinki. C'est comme ça que j'ai connu Hannes. Et puis après, avec mes beaux-parents, il a bien fallu que je m'intègre dans le milieu familial. Donc j'ai appris le suédois avec mes beaux-parents. Et ce qui fait que je n'ai jamais appris correctement le finnois.
D'accord. Et quels sont les voyages que vous avez effectués depuis votre découverte de l'espéranto?
Au moins une ou deux congrès ou conférences par an. Oui, Maribor en Slovénie
le premier,
était le premier.
Oui.
On a été en Espagne, la semaine de culture et de tourisme.
De Serrano. Et puis, alors là, c'était horrible, je ne comprenais rien, c'était en 2006. Donc,
quelques mois après votre
démission. Voilà, donc on me demandait l'heure, je ne comprenais pas. Mais ce qui m'a, ce qui m'a interloqué, c'est de les voir tous. Il y avait des Coréens, il y avait des, enfin, plusieurs nationalités,
même
tous
un
ces pêcheur gens-là,
islandais.
Même un Islandais, Jon. Et je voyais tous ces gens se taper sur l'épaule, et comment vas-tu? Enfin, ils parlaient espéranto, ils riaient, ils se racontaient des blagues. Et moi, j'ai dit, ah, mais il faut absolument que je fasse pareil, il n'y a pas de raison. Et alors, c'est ce qui m'a motivée.
À mon avis, vous êtes rattrapée depuis. Hein,
ah, là, oui.
Au premier congrès, vous aviez un petit peu de mal. Ouais. Là, j'ai pu constater tout à l'heure que vous maîtrisiez tous les deux l'espéranto vraiment très, très bien.
Mais parce qu'on le pratique en couple, quand il n'y en a qu'un et que l'autre est contre, ce qui arrive quelquefois,
oui, hein, ou
est
paresseux, même,
ou l'autre n'est pas intéressé, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais je leur disais à des personnes que je connais qui vivent seules, je dis, mais vous parlez à vous-même en espéranto. Ce que je faisais, par exemple, quand je repasse avec mon dictionnaire, je dis, ah, mais comment dit-on repasser? Bon, alors, je me le dis en espéranto. Quand j'épluche des pommes de terre, je traduis en espéranto. Mi senceli gas la terpomoi. Et voilà. Et on peut se parler à soi-même.
Oui, il y a aussi, une bonne méthode. Quand on lit un livre, lire à haute voix.
Ah, très bon.
Ça permet de parler et de.
Et on s'entend.
D'acquérir l'habitude de parler.
Et on entend les défauts qu'on peut avoir aussi, justement.
Très bien. Alors, Gisèle, moi, en fait, j'étais ravi de vous rencontrer. Car j'avais trouvé l'article que vous avez écrit dans Esperanto Info à propos de la jeune femme mongole que vous avez rencencontrée en Mongolie d'abord et ensuite hébergée chez vous. Je l'avais trouvé magnifique cet article et très encourageant. Donc je vais vous demander de décrire maintenant cette expérience tous les deux.
Eh bien en fait, Adza s'occupait beaucoup de moi pendant le voyage en Mongolie parce qu'elle voyait que je n'étais plus très jeune et quelquefois
pendant l'excursion, qu'on a fait une excursion après le congrès asiatique.
En fait, avec Adza,
on a fait une excursion de 5 jours en Mongolie
et avec un jeune japonais qui retraduisait, parce que en fait, Asa ne parlant pas l'espéranto, elle ne parlait que le japonais, donc elle interrogeait les Mongols chez qui nous allions dans les yourtes et tout ça, et elle traduisait en japonais à Yasu, le japonais traduisait en espéranto.
Donc là, vous étiez bien pour un voyage dans le but d'utiliser l'espéranto dans un cadre espérantiste.
Tout à fait,
voilà.
Mais votre guide mongol ne parlait pas l'espéranto.
Oui. Exact. D'accord. Et quand elle a vu la façon aisée que nous avions de parler entre nous tous, toutes les nationalités, elle a tout de suite pensé que c'était quand même une langue extraordinaire. Donc, et en plus, je dois dire, elle avait un petit faible pour moi parce que je lui rappelais sa grand-mère. Donc, elle était toujours en train de me demander si j'étais fatiguée. Elle me bouclait mon sac qui était toujours mal fermé derrière. Ou alors, elle m'aidait à monter dans le bus. Et du coup, on s'est pris d'amitié, on l'a invitée, mais elle ne parlait pas, presque pas l'espéranto. Et j'avais un peu peur. On a dit, mon Dieu, mais comment on va faire? On ne parle pas le japonais. Enfin bref, elle est venue et tout s'est admirablement bien passé parce qu'elle est très futée, très intelligente, très travailleuse.
Elle était plongée du matin au soir pendant 2 semaines.
Ah oui.
On ne parlait que espéranto. Et on a lu un livre pour débutants qui s'appelle Saluton, salut.
Voilà.
Et on a lu les 200 pages en 2 semaines. Et quand elle est partie, elle pouvait s'exprimer et elle comprenait ce qu'on disait. Donc
voilà.
C'est quand
en
même
parlant lentement.
Une démonstration brillante de la qualité et de facilité de l'espéranto. Oui.
Donc elle est restée 2 semaines chez
deux
vous,
semaines.
À Valence. Donc.
Un peu à
Noyaret, un peu à Valence et puis pour finir à Paris.
En Ardèche.
Voilà.
Vous l'avez emmenée à Paris.
Voilà. Ah ben oui, avant
qu'elle retourne en
Mongolie. Oui, il fallait quand même qu'elle puisse dire qu'elle était allée à Paris pour voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Invalides, Notre-Dame. En 2 jours, on a fait des kilomètres. On a fait des kilomètres à pied. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle était toujours... Et pourtant, je pense qu'elle travaillait la nuit. Elle devait relire les leçons parce que quand je me suis levée, quelquefois, j'ai vu la lumière dans sa chambre. Donc je soupçonne fort que, en plus des études journalières, elle devait réviser pendant la nuit. Elle était très assidue, très assidue.
Et depuis, ben, on parle par Skype, oui. On parle avec elle.
Voilà,
elle
donc vous n'avez pas rompu le contact.
Elle fait des progrès constants. Oui. Et en juillet prochain, elle va venir chez nous pendant 2-3 semaines de nouveau.
Voilà.
Donc elle, quand elle repartira, elle sera experte en,
en si.
Espéranto.
J'ai oublié de dire que quand même, maintenant, comme elle est espérantiste convaincue, elle ne veut pas oublier, donc elle travaille quelquefois avec un professeur qui vient du Japon, à Ulaanbaatar, pour donner des cours d'espéranto, mais seulement pendant 3 mois. Il reste 3 mois, il donne des cours intensifs et puis il repart.
Donc au groupe d'Ulaanbaatar.
Au groupe d'Ulaanbaatar, oui. Probablement. Et enfin, je ne sais pas combien ils sont exactement.
Donc en résumé, vous avez fait découvrir à cette jeune femme mongole la France, l'espéranto, et tout est parti finalement de relations amicales que vous avez nouées avec elle lors de votre séjour en Mongolie.
Voilà. Et je pense que dans la famille, l'exemple peut-être se continuera parce qu'Amra, son frère, qui est plus jeune qu'elle, est très intéressé aussi, et deux sœurs, ils sont neuf enfants dans la famille de Hadza, dont quelques-uns sont âgés, travaillent, etc., mais quelques-uns sont intéressés par l'espéranto. Donc on verra. On a semé.
Qui a défi à l'aiguille à fervor de la liberté ou super hostie ou in glavoi ili kunschwitz dit kaisit kai terror venus forprenos chuteros mi ein avoi jam tam muras la
Accordo, le groupe néerlandais, vous interprétait la Siege de Bergen, le siège de Bergen. Voici maintenant notre nouveau sketch, la Dom Rabisto, interprété par Didier et moi-même. La Dom Rabisto, ni estas du viroi qui babilas sur trottoaro. Dom Rabisto visitis nin hiera nocte. Ne attendita aventuro.
Dom Rabisto! Ciò vi captis lin?
Ne, bedaurinde, li estis bon chanza, li successis forcuri.
Ciel domage, cion li steris?
Ne multe, tio ocasis circau la dua horo en la nocto.
Ciel vicias?
La edzino vecigis, si audis bruon, sed unue credis che estas la vento. Poste, si audis brueton en nia liĉambro, kaj si puŝis min per la kubuto. Tio vekis min.
Ah, tio vekis vin. Ĉu vi batis lin?
Ne, li sukcesis forkuri. Estis bedaŭrinde, ke li ne trafis en miajn manojn.
Ah, li certe estis bonŝanca. Sed ĉu vi postkuris lin?
Ne. Mi ne povas rapide curi. Crome, mancis al mi pantalono.
Cion vi faris? Ciam vi audis lin en la ciambro, apud la lito, ciu vi faris lumon?
Compreneble ne. Mi ne desiris che li sciu che mi vecigis.
Cai vi cusis tie, cai lasis lin steli? Mi ne comprenas.
Mi volis capti lin, sed mi devis unue pripensi mian atakon.
Kai dum vi pripensis vian atakon, kion li ŝtelis?
3 broĉojn kaj 2 ringojn de la edzino, kai mian monujon. Kai tiu momente li faris sukcesan forkuron.
Kiel malfelice. Kial vi ne saltis el la lito?
Estis malvarma nokto. Vi havis ŝargitan revolveron, ĉu ne?
Kie ĝi estis?
Sub mia kapkuseno, sed li ne trovis ĝin. Et dire que Didier prétend ne pas être acteur, je trouve qu'il y a mis le ton. Dorothée et Pierre nous rejoignent pour la traduction. Nous sommes avec Dorothée, Pierre et Didier et nous allons traduire la Dom Rabisto. Le titre pour commencer, Dom Rabisto.
Dom, c'est quelque chose avec maison.
C'est une maison, Domo. Et
Rabisto.
Rabisto.
A qui vole?
Oui, estas iu kiu rabas. Rabobesto, c'est en fait un rapace, une bête de proie, si vous préférez. Ah. Il y a le verbe shteli pour voler,
ouais.
Rabi, c'est plutôt faire acte de prédation. Voilà, rabobesto, c'est un prédateur. Donc, dom rabisto, c'est quelqu'un qui va voler dans votre maison, c'est donc un cambrioleur. Le titre, le cambrioleur. Les rôles, roluloi, viro kai viro, deux hommes, sceno sur trottoiro.
Sur le trottoir.
Sur un trottoir, sur un très, trottoir. Très bien. Dom rabisto visitis nin hieraŭ nocte.
Un cambrioleur nous a visité hier soir.
Voilà, hier pendant la,
pendant
nuit,
la nuit,
nocte. Ne attendita aventuro.
Une aventure non attendue.
Voilà.
Inattendue.
Inattendue, une aventure inattendue. Le deuxième répond. Dom rabisto, ĉu vi kaptis lin?
Un cambrioleur? Est-ce que tu l'as attrapé?
Très bien, Didier. Ne bedaurinde.
Non.
Malheureusement.
Malheureusement. Très bien. Li estis bonchanza.
Il a eu de la chance.
Li successis forcuri.
Il a réussi à foutre le camp.
Voilà, à s'enfuir en
à
courant.
S'enfuir.
Donc, curi, courir. For, loin. Courir au loin, donc s'enfuir, foutre le camp, comme dit Pierre. Très bonne. Quel dommage.
Quel dommage.
Qui on l'istelis?
Qu'est-ce qu'il a volé?
Très bien. Donc on retrouve le verbe steli, voler. Qu'a-t-il volé? Qu'est-ce qu'il a volé? Ne multe.
Pas grand-chose.
Pas grand-chose. Tio casis circa ou la dua horo en la nocto.
Cela s'est produit autour de 2 heures de la nuit.
Très bien. Qui Elvis Tsias?
Comment le sais-tu?
Comment le sais-tu ou comment le savez-vous? On ne sait pas si les personnages se tutoient ou se vouvoient. On sait qu'en espéranto, on ne fait pas la différence. La edzino vekigis.
Ma femme veillait.
Pas
non,
tout à
c'est
fait.
Réveillé.
Voilà,
c'est
réveillé.
C'est réveillé. Ichi.
Très bien. Alors, le verbe veki, c'est réveiller quelqu'un. Vekiji, c'est se réveiller. Le verbe veki est transitif, réveiller quelqu'un. Le verbe vekiji est intransitif, c'est se réveiller. Et on remarque souvent en espéranto la edzino, la femme. Mais Pierre a traduit normalement par ma femme. On parle plutôt comme ça en français. She audis bruon.
Elle a entendu un bruit.
Sed unue credis que estas la vento.
Mais au début, elle a cru que c'était le vent.
Très bien. Et vous remarquez qu'en français, on dit bien que c'était le vent, alors qu'en espéranto, sed unue credis, elle a cru. Que estas la vento? Effectivement, c'est estas, c'est un présent, et au moment où elle l'a cru, c'était pour elle du présent. Hein? La gestion des temps est différente entre l'espéranto et le français. Poste, si audis brueton en nia litchambro.
Ensuite, elle a entendu un petit bruit dans notre chambre à coucher.
Très bien, brueton, effectivement. Petit bruit, un bruit ordinaire, ce serait bruon. Kai si pushis min per la cubuto.
Et elle m'a poussé du coude.
Et elle m'a poussé du coude, avec le coude, effectivement, Kubuto. Tio vekis min.
Cela m'a réveillé.
Voilà, et là on voit bien que le verbe veki est transitif. Cela a réveillé min, moi. Ha, tio vekis vin.
Ah, cela t'a réveillé.
Ču vi batis lin.
Est-ce que tu l'as cogné?
Voilà, est-ce que tu l'as cogné? Est-ce que tu l'as frappé? Ne, li successis forcuri.
Non, il a réussi à foutre le camp.
Voilà, l'expression est adoptée par Dorothée Duncan. Estis bedaurinde que li ne trafis en miain manoin.
Que c'est dommage.
Que li ne trafis.
Qu'il n'est pas.
Qu'il ne soit pas tombé sous la main.
Entre mes mains.
Voilà,
mes mains.
Très bien. Alors, trafis, c'est un petit peu curieux ici, puisque c'est atteindre une cible, par exemple.
Oui.
Donc là, qu'il ne soit pas tombé entre mes mains, effectivement, une expression. Li certe estis bon chance.
Il a certainement eu beaucoup de chance. Il a certainement été chanceux.
Yes. Sed chuvine post curis lin.
Mais vous ne l'avez pas couru après.
Voilà, poursuivi, couru après. Ne, mi ne povas rapide curi.
Non, je ne peux pas courir très vite.
Crome, mancis al mi pantalono.
En plus, il me manquait mon pantalon.
Très bien. Kion vi faris, kiam vi audis lin en la chambro apud la lito.
Qu'as-tu fait quand tu l'as entendu dans la chambre, à côté du lit?
Oui, chambro, donc c'est pièce, mais effectivement, on a déjà dit lit, lit chambro, donc il n'y a pas de problème, c'est bien la chambre. Ču vi faris lumon?
Tu as allumé la lumière?
Yes. Compreneble, ne?
Bien sûr
que non. Tu penses bien que non.
Mi ne desiris que li sciu que mi vekigis.
C'est bête.
Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais réveillé. Que je m'étais réveillé.
Voilà, que je m'étais réveillé. Effectivement, Iji Veka, que je suis devenu éveillé, donc que je m'étais réveillé. Kai vi kuŝis tie, kai lasis lin ŝteli.
Et tu es couché là et tu le laisses voler.
Oui, c'est au passé. Oui.
Alors, c'est, oui, puis
et tu l'as laissé voler, l'assis.
Voilà. Oui. Et couchis, on peut traduire ici par rester couché, en fait.
Ah oui, tu as resté couché. Oui, oui.
Mi ne comprenas.
Je ne comprends pas.
Mi volis capti lin, sed mi devis unue pripensi mian atakon.
Je voulais l'attraper, mais... Il fallait d'abord, mais
oui,
ou je devais d'abord réfléchir à la façon de mon attaque.
À mon attaque. Voilà, pripensi mian attacon. Donc pripensi est un verbe transitif. Réfléchir à mon attaque. Kai dum vi pripensis vian attacon, kion li ŝtelis.
Et pendant que tu réfléchissais à ton attaque, qu'a-t-il volé?
Trois broches. Kai du ringoin de la edzino.
Et le bracelet.
Non, ring.
Non, ah, le collier.
Anneau, donc des bagues.
Des bagues.
Oui.
Et deux bagues de mon épouse.
Kai mian monuyon.
Et mon porte-monnaie.
Kai tiu momente li faris successan forcuron.
Et
à ce moment-là.
Très bien. Tiu momente, c'est bien démonstratif. Tiu, à ce moment-là, li faris successan forcuron.
Il a fait une fuite, succès, plein de succès. Quoi.
Voilà, réussi.
Réussi. Voilà.
Donc en français, on ne va peut-être pas traduire mot à mot, mais c'est bien ça. Il a réussi à s'enfuir. Qui est le malfelice?
Quelle malchance.
Quel malheur, oui, oui.
Malheur.
Quel malheur. Qui al vine saltis el lalito?
Pour, pour, Pourquoi?
Oui, pourquoi?
N'as-tu pas sauté hors du lit?
Yes. Estis malvarma nocto.
C'était une nuit très froide.
Oui, froide, simplement. C'était une nuit froide. Vi havis chargitan revolveron, ĉu ne?
Vous avez un revolver chargé, non?
N'est-ce pas? Oui, pas oui ou non, comme ça, oui. Qui est G. Estis?
Où il est?
Où était-il?
Oui.
Sous mia cap cuseno.
Sous mon oreiller.
Oui, cuseno, donc coussin, oui. Cap de tête. Donc, bien entendu, c'est l'oreiller. Sed l'inetrovis gin.
Mais il ne l'a pas trouvé.
Ah, on est donc tous rassurés. Il ne l'a pas trouvé, il ne l'a pas volé. Mais notre héros ne s'en est pas servi. Merci à tous les trois pour votre traduction. Vous voyez que nos enregistrements se déroulent dans la bonne humeur. Celui-ci avait lieu à Saint-Antoine d'Auberoche, un petit village de Dordogne où la municipalité nous prête gentiment une salle chaque semaine pour le cours d'espéranto. Pour des conférences, une information sur l'espéranto ou des cours, nos coordonnées figurent sur notre site internet esperanto-jep.asso.fr. GEP, le JEP, c'est le groupe espérantiste périgourdin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.